Géopolitique. Chantal Laureau.
Bienvenue dans la seconde partie de Géopolitique. Annoncée le 9 juillet dernier, la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée après 20 ans de guerre froide rebat les cartes dans la Corne de l'Afrique. Pourquoi la région est-elle devenue un enjeu géostratégique majeur? Pourquoi suscite-t-elle autant d'intérêt de la part des pays du Golfe, mais aussi des grandes puissances, Chine et États-Unis notamment? On continue d'en débattre avec Sonia Le Gourielec, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, Gérard Prunier, membre de l'Atlantique Council, et Éloi Fiquet, maître de conférence à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Est-ce que la guerre au Yémen a été un facteur déclenchant de ce retour en force des pays du Golfe dans la Corne, Sonia Le Gourielec?
Oui, certainement. Enfin, c'est un ensemble de facteurs. L'internationalisation de la mer Rouge, bien sûr. Le fait que la Corne se trouve sur la route maritime de la soie chinoise, etc. Mais effectivement, la coalition organisée par l'Arabie Saoudite, donc qui réunit certains pays de la Corne de l'Afrique. Le fait que les Émirats ont reconstruit le port d'Assab, ont fait également une base militaire, une piste aérienne louée par l'Arabie Saoudite dans le cadre de la guerre. Je crois qu'ils sont aussi très présents au Somaliland, mais je pense que Gérard Prunier pourra en dire plus. Effectivement, il y a un retour des pays du Golfe aussi lié à la guerre au Yémen. Je crois qu'une fois, Isaias Afewerki avait dit justement, en parlant de la guerre au Yémen, on lui demandait est-ce qu'il y a des troupes là-bas ou quoi. Il avait dit, nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre, ni neutres.
Finalement, on peut dire que l'Éthiopie et l'Érythrée ont échangé leur soutien à la coalition menée par l'Arabie Saoudite en échange de monnaie sonnante et trébuchante.
Oui, un peu. D'autant plus que, au départ, quand Abiy Ahmed a hérité la situation géopolitique locale des mains de son prédécesseur, l'Éthiopie était plutôt du côté qatari. Qataro-turco-iranien. Il y a des traits d'union, il faut se rappeler tout ça. Et il a très rapidement compris que, ça faisait pas partie du nouveau cahier des charges. Et il s'est précipité à Riyad.
Éloi Fiquet.
Ce que je peux noter comme historien de la région, c'est d'abord le savoir-faire en relations internationales, en tout cas des acteurs politiques éthiopiens. L'Éthiopie a été le seul État indépendant d'Afrique pendant l'ère coloniale parce que les acteurs politiques éthiopiens ont su anticiper la montée des impérialismes occidentaux, ont su négocier leur souveraineté, en utilisant d'arguments religieux. Le christianisme éthiopien faisait part égale avec les christianismes occidentaux. Gérard Prunier a évoqué tout à l'heure la question religieuse, qui est importante dans ces négociations globales, dans les discours entre ces acteurs. Abiy Ahmed a des origines familiales musulmanes. Quand il a rencontré Al-Sisi en Égypte, il a pu échanger quelques mots en arabe. Il y a comme ça des vecteurs symboliques importants. Et l'Éthiopie, les dirigeants éthiopiens de longue date savent négocier leur position, négocier leur souveraineté avec un multilatéralisme radical. C'est-à-dire, jamais l'Éthiopie ne s'est enfermée dans un camp, dans une alliance. Ils savent jouer plusieurs alliances en même temps et pouvoir retourner, adapter leurs alliances, jouer l'une contre l'autre, faire monter les enchères. Donc, dire l'Éthiopie a rallié le camp saoudien, alors peut-être temporairement, de façon opportuniste, dans les circonstances actuelles, mais je pense qu'ils savent opérer ce tour de force que, en même temps, maintenir des relations avec les Qataro-Turcs iraniens, avec la Chine, avec les États-Unis en même temps. Vraiment, les Éthiopiens, depuis très longue date, savent jouer de ces multiplicités d'alliances et apparaître comme, de toute façon, un allié indispensable, inévitable dans la configuration géopolitique régionale.
Sonia Le Gourielec, est-ce que l'Érythrée pratique aussi cette politique du « en même temps » ou est-ce que là, il y a vraiment un changement d'alliance?
Non, beaucoup moins. Je pense qu'effectivement, c'est l'Éthiopie qui est la plus prudente dans ses alliances dans la région, alors que les autres ont tendance peut-être à un peu plus foncer tête baissée avec un allié ou un autre. Et c'est vrai qu'on a actuellement différents axes qui se mettent en place dans la région, à la fois un axe saoudo-émirati, Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est peut-être plus le prince émirati qui commande et qui va de l'avant et qui pousse les Saoudiens. On a un autre axe qui est plus Qatar, Turquie. Et puis, l'Iran est un peu moins présent. Tout le monde a un peu rompu avec l'Iran. Et je pense qu'il faudrait peut-être aborder le cas somalien, où c'est là que ces alliances créent le plus de conflits. Et c'est vraiment la Somalie qui est caractéristique de ces alliances dans la zone.
Alors, Gérard Prunier, la Somalie, les chefs d'État, donc somaliens et érythréens, se sont engagés en décembre à travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Ils ont rétabli leurs relations diplomatiques. Mais pour vous, c'est une entente de façade?
C'est pas seulement ça, c'est que c'est le mariage de la carpe et du lapin. Parce que Isaias est un dictateur, un vrai. Il contrôle son territoire. Le président de la Somalie doit contrôler 20% peut-être du territoire de la Somalie. Le reste lui échappe. Il est entre les mains de milices claniques, d'insurgés islamistes ou de sous-états plus ou moins soumis ou pas, qui font semblant de lui obéir, ou même qui ne font pas du tout semblant, dans le cas du Somaliland, qui a proclamé son indépendance, même si elle n'est pas reconnue internationalement. Donc, les deux partenaires, on peut dire, sont dans des positions tout à fait hétérodoxes. Et par contre, le président de la soi-disant Somalie, enfin des gens qui ont le siège aux Nations Unies, hein, bon, lui, il rentre tout à fait dans cette idée de fédération dont Sonia nous rappelait avant la pause que c'était pas vraiment très bien vu des Djiboutiens. Et d'ailleurs, les Djiboutiens sont totalement contre ça. Ils sont arc-boutés contre. Alors que Farmajo, le président Somalie, lui, au moins, ça lui coûte pas cher, vu qu'il contrôle presque pas son territoire. Donc, à partir de son petit fauteuil, il peut prendre des positions qui le mènent pas à grand-chose. Mais symboliquement, oui, il est tout à fait pour cette fédération, alors que lui, c'est sa propre élection a été achetée par l'argent de Doha, il est totalement dans le camp qatari. Alors c'est vraiment, encore une fois, une demi-carpe avec un quart de lapin.
Et le fait de s'opposer au Qatar n'est pas forcément bien vu des leaders régionaux somaliens qui sont opposés au président Farmajo.
Non, tout le monde a sa propre cuisine sur le feu. Par exemple, le Somaliland, qui s'est retrouvé dans les bras des Émirats Arabes Unis lorsqu'il y a eu la signature d'un accord concernant le port de Berbera. Ça, c'est toute la politique émirati sur la mer Rouge et même allant beaucoup plus loin jusque vers l'Iran, de contrôler tous les atterrages maritimes. Et ils ont commencé par Assab et puis ils poursuivent, ils continuent à égrener le chapelet. À l'époque, j'en ai parlé avec l'actuel président du Somaliland, il m'a dit « qu'avais-je comme autre choix ?» Il n'est pas reconnu internationalement, il n'a pas d'aide, les Émiratis lui tendent la main, il la prend peut-être pas avec enthousiasme et joie, mais c'est toujours une main.
Je voudrais qu'on revienne sur la levée des sanctions de l'ONU par rapport à l'Érythrée. Elles avaient été prises, ces sanctions, parce que l'ONU accusait Asmara de soutenir les chebabs somaliens, ce qu'Asmara a toujours nié. À votre avis, il y avait un soutien militaire d'Asmara aux chebabs?
Absolument. Il y avait même une micro-armée érythréenne qui avait débarqué en Somalie. Et c'est d'ailleurs ça qui a amené l'invasion du territoire sud de la Somalie en 2006 par l'armée éthiopienne, ce qui était la manière pour eux de continuer à se battre avec les Érythréens sur un autre champ de bataille. Et ça a duré 2 ans, pendant lesquels l'Éthiopie a occupé ou tenté d'occuper une Somalie qui bouillait à gros bouillon et qui a fini par lui exploser, la marmite lui exploser à la figure, donc ils ont évacué. Mais bien sûr, et il y a de très nombreux officiers érythréens qui ont été capturés dans cette opération, et certains d'entre eux ont terminé en Pologne, à Guantanamo, dans les prisons secrètes de la CIA. On les a soit tués, soit peu à peu remis en liberté.
Et alors aujourd'hui, quels sont les liens d'Asmara avec les chebabs?
Il n'y en a plus. Et justement, c'est ce que disait Sonia tout à l'heure, Isaias fonce tête baissée dans une direction. Boum, il se cogne sur le mur. Ah bah il arrête, et il repart dans une autre.
Éloi Fiquet, tout à l'heure vous mentionniez l'Égypte. L'Éthiopie est en train de construire le plus grand barrage hydraulique d'Afrique sur le Nil Bleu, ce qui inquiète évidemment le Caire, qui estime que l'eau du Nil, c'est une question de sécurité nationale. Le président Al-Sissi a reçu des assurances du Premier ministre éthiopien. Mais est-ce que la menace d'un conflit majeur autour de l'eau est pour autant écartée ?
Il semble que les hautes ambitions affichées par le gouvernement éthiopien pour la mise en œuvre de son barrage avec des millions de mégawatts et tout cela, il semble que les projets aient quand même été revus sérieusement à la baisse et que l'Éthiopie a gagné avec ce barrage un moyen de négociation et un moyen de regagner sa place, une place prééminente dans le devenir économique du bassin du Nil.
Sonia Le Gourielec, le fait que l'Égypte soit dans le camp saoudien force les Éthiopiens à la ménager ?
En fait, je crois que le jeu était déjà joué parce que les vraies menaces, enfin les vraies tensions ont eu lieu quand je crois que c'était Morsi qui était encore au pouvoir en Égypte ou dans un conseil des ministres qui avait été filmé, on ne sait pas pour quelle raison, il avait menacé d'attaquer, de faire la guerre à l'Éthiopie s'ils continuaient leur barrage. Les Éthiopiens n'en avaient que faire et ont continué à construire leur barrage. Et voilà, il est terminé. Donc c'est terminé. Maintenant, il faut effectivement mener des négociations. Alors je sais qu'à un moment, il y avait des craintes que les Égyptiens aient une base dans le... c'était les rumeurs, hein, Radio Djibouti, Radio Corne de l'Afrique, des rumeurs que les Égyptiens avaient une base dans le nord de l'Érythrée pour pouvoir se préparer à attaquer le barrage si nécessaire. Bon, a priori, je suis pas sûre que ça a été véritablement confirmé, mais en tout cas, ils étaient proches des Érythréens. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que moi, j'ai des contacts qui appellent Afewerki, donc le président érythréen, le Kadhafi de la Corne. Vous en déduisez ce que vous voulez, mais pour eux, actuellement, ils jouent les Kadhafi de la Corne de l'Afrique.
Gérard Prunier, on peut dire un mot du Soudan par rapport au changement d'alliance. Le Soudan a rompu ses liens avec l'Iran en 2016. Là encore, en échange d'investissements saoudiens.
Oui, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire Sonia. La base existait bel et bien, et elle n'était pas dans le nord de l'Érythrée, elle était dans le sud-ouest. Et ils recrutaient, d'ailleurs, des rebelles Béja. C'est-à-dire une population qui est à cheval sur la trifrontière, dont la plus grande partie est au Soudan, justement. Mais il y en a aussi en Érythrée. Parce que, bon, toutes ces frontières, hein, ça a été bricolé par les Européens au XIXe siècle. Donc, il faut pas... Les pauvres États-nations africains sont toujours à la course derrière leurs vraies frontières. Et d'ailleurs, personne n'est jamais d'accord dessus. Mais ça correspond pas à ce qui est écrit sur les cartes. Donc, oui, il y avait bel et bien une base égyptienne qui n'a jamais fonctionné, qui se préparait à une éventuelle guerre qui n'a jamais eu lieu. Bon, ça aurait été très difficile sur le plan logistique. Et donc, le Soudan est également impliqué là-dedans, parce que, par exemple, les Soudanais ont envoyé des troupes au Yémen, d'ailleurs, où eux, ils se battent. C'est un pays qui a essayé de jouer les deux côtés de la clôture, d'être à la fois en bon terme avec la Turquie et en bon terme avec les Saoudiens, en réclamant de l'argent aux deux et en étant en général payé ni par l'un ni par l'autre. Et d'où une situation de frustration qui, ces derniers jours, vient de se manifester par de graves émeutes à Atbara, au Soudan, parce que le Soudan n'en peut plus, que son économie est dans un état de délabrement avancé, et que à mendier à droite et à gauche, on ne vous fait pas toujours la charité pour autant.
Alors, dernière question à vous trois. Est-ce que cette paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée va être une paix durable, selon vous ? Au petit jeu des pronostics, Sonia Le Gourielec.
Il y a eu quand même des avancées assez fortes sur lesquelles on reviendra pas, on pourra pas revenir en arrière. Néanmoins, on a les mêmes acteurs. Il y a quelques années, moi, j'écrivais qu'effectivement le conflit Éthiopie-Érythrée était au cœur de la déstabilisation de la Corne de l'Afrique. On est en voie de pacification, mais le président érythréen reste là. Et pour terminer, le président djiboutien avait fait une biographie où il écrivait un chapitre qui s'intitulait « Le poison Afewerki ». Et il rappelait que l'ancien président djiboutien lui avait toujours dit « méfie-toi toujours d'Afewerki ». Et j'ai l'impression que le retrait djiboutien actuellement s'explique pour diverses raisons. Ils sont pas invités dans les sommets tripartites ou les bilatéraux qui ont lieu actuellement avec les acteurs de la région. Mais j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis d'Isaias Afewerki, qualifié aussi de Kadhafi de la Corne actuellement.
Éloi Fiquet, une paix durable ou pas ?
Pour l'instant, moi je m'interroge sur le maintien d'une paix interne en Éthiopie. Les tensions sont extrêmement fortes entre les différents groupes régionaux.
Oui, il y a eu des violences intercommunautaires qui ont fait une centaine de morts.
Oui, qui sont plus qu'intercommunautaires, qui sont vraiment, on parlait tout à l'heure de fédération à l'échelle régionale. L'Éthiopie est elle-même une fédération, et d'ailleurs l'organisation fédérale avait été conçue, pensée avec appui américain à l'époque, hein, en 1991, après la chute du régime militaire socialiste. Et on n'est pas dans des affrontements entre des petits groupes, on est dans des groupes de plusieurs millions de personnes, donc qui ont des dimensions véritablement d'État et qui cherchent d'ailleurs à s'autonomiser comme structure politique ayant leur capacité de prélèvement fiscal et leur capacité de gérer une administration des frontières. Et ce qui est actuellement en jeu, c'est une sorte de grand rebrassage de la question fédérale. C'est
parce que l'option de sécession est contenue dans la constitution éthiopienne. Ça,
oui, c'est une sorte de bouton nucléaire. Mais d'ailleurs, cette option a été activée, ce qui a permis à l'Érythrée de organiser son référendum d'indépendance. Donc il y a un précédent qui a été créé. Et actuellement, il y a une sorte de rapport de force généralisé qui se réorganise. Chaque groupe, en fait, comme il n'y a pas de carte officielle de la fédération éthiopienne, cette carte n'est jamais mise à jour, mais elle est constamment réajustée en fonction de rapports de pouvoir qui se jouent généralement à un niveau micro-local. Là, on assiste à une montée en échelle où ces rapports de force entre groupes nationaux éthiopiens se jouent vraiment sur des dimensions plus vastes. Et on voit donc une montée de conflits qui dépasse des micro-conflits communautaires, mais vraiment à une dimension beaucoup plus générale dans la réorganisation des circonscriptions politiques et des ressources qui vont avec. Et l'Éthiopie doit tenir ses élections en 2020, et on ne sait pas du tout dans quelles circonstances vont se tenir ces élections, et est-ce que ces élections vont mener à une forme de déstructuration du jeu politique sur des bases régionales et ethniques.
Gérard Prunier, vous êtes d'accord, la solidité de cette paix ou sa durabilité va dépendre de ce qui se passe, de ce qui va se passer en Éthiopie d'ici 2020?
Oui, et d'autant plus que je pense que la paix est durable parce que le danger que vient d'esquisser ou de décrire Éloi est réel. Et on ne peut pas imaginer un État en plein bouleversement intérieur qui se met à faire la guerre avec l'État d'à côté. Il est bien évident que plus il y aura de problèmes en Éthiopie, moins la guerre sera un risque. Donc je pense que c'est durable, et pour des raisons qui ne sont pas toutes très agréables, avec en plus la possibilité que la même chose se produise en Érythrée à terme, le jour où Isaias disparaît, par des moyens normaux ou violents.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Sonia Le Gourielec, maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Vous avez coordonné un livre paru en 2017 chez Armand Collin, « Notre monde est-il plus dangereux ?» Gérard Prunier, consultant, chercheur émérite au CNRS, membre de l'Atlantic Council. Et puis Éloi Fiquet, maître de conférence à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Et je signale que vous avez signé tous les deux, Gérard Prunier et Éloi Fiquet, Understanding Contemporary Ethiopia, paru chez Hearst, et un livre qui donc n'a pas encore été traduit en français. Merci à Pauline Leduc qui a réalisé cette émission, et à Yaël Co et Véronique Durand qui m'ont aidé à la préparer. À bientôt.